Bonjour, on va parler jazz aujourd'hui, un jazz tourné vers l'avenir, mais qui va quand même se ressourcer à ses origines, puisque dans le studio d'Umpoco Agitato, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Rhoda Scott et avec Laurent Mignard. Laurent Mignard, on le connaît pour être trompettiste, mais aussi directeur de grand orchestre, compositeur, arrangeur. Quant à Rhoda Scott, on sait, Rhoda, que vous êtes pianiste, mais surtout organiste, et puis que vous êtes une Américaine de Paris depuis longtemps. Alors, est-ce que vous travaillez avec Laurent Mignard depuis longtemps aussi? Laurent Mignard va donc au Méridien, au club Lionel Hampton, demain soir, être avec vous. Ça sera l'association d'un grand orchestre avec une organiste. Est-ce que c'est une association ancienne qui vous relie tous les deux?
C'est une association assez récente, puisque nous nous sommes mis en collaboration pour ce projet en hommage de Duke Ellington. Mais je dois dire que dès le premier instant, c'était comme si on se connaissait depuis toujours.
Bon, c'est des premiers instants qui comptent quand même. C'est rare de voir un grand orchestre qui invite un orgue. Bien souvent, on peut avoir un invité vedette pour un grand orchestre. On s'attend davantage à avoir un souffleur. Est-ce que, techniquement, de la part d'un arrangeur, d'un compositeur, est-ce que ça nécessite une acrobatie particulière, une finesse? Est-ce que vous avez changé un petit peu les scores des musiciens, Laurent, sachant que votre orchestre allait accueillir? Alors, comment l'orgue vient se placer au cœur de l'orchestre?
Il y a une tradition dans laquelle on se met, hein, on pose nos pas derrière ceux d'Ellington, pour moi, quant à conduire l'orchestre. Rhoda, elle, pose les siens derrière ceux de White Bill Davis, qui était l'organiste de la fin de la période d'Ellington. Et à partir de ce matériau de base, des enregistrements, des transcriptions que je réalise à partir des enregistrements originaux, des arrangements qu'on peut faire, mais très peu d'arrangements, c'est surtout des adaptations pour accueillir Rhoda dans les versions originales, on va faire en sorte que Rhoda puisse s'exprimer pleinement. Mais disons qu'on ne part pas de rien. Matériau de base, oui, chez Ellington.
Et comment vous avez fait? Vous avez relevé vous-même les arrangements ellingtoniens? Ils sont tous parus? Vous êtes permis de temps en temps des libertés? Je sais que votre orchestre s'appelle, je crois, Dukish Orchestra.
Voilà,
donc,
le Dukish Orchestra.
La filiation est explicite quand même. Vous ne cachez pas vos intentions.
Non, mais il n'y a pas de raison. On parle quand même de l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle.
Mais ça, je suis bien d'accord avec vous.
Et voilà, on est tous d'accord autour de cette table. Donc, le projet de cet orchestre, c'est d'admettre ça, de le faire admettre à tout le monde, de faire revivre la musique d'Ellington sur scène, et d'être très honnête dans la fidélité à Ellington, tout en gardant évidemment la part de créativité de chacun des musiciens qui vont jouer. Donc la spécificité de notre orchestre est que je transcris, d'après les enregistrements originaux, tout le répertoire. Ça a commencé il y a 2 ans avec les musiques sacrées à Saint-Sulpice, qu'on a recréé. Il y a 1 an... tout l'album Faris Suite a été recréé pour le festival Libre en Jazz. Il y a 6 mois, on a fait un spectacle qui s'appelle Carnet de Voyage, les traces Ellington sur les 5 continents, pour le festival Jazz sur son 31, où là on avait emprunté la plupart des suites exotiques d'Ellington. Et aujourd'hui, la commande du Méridien a été de recréer une grande partie de la New Orleans Suite. Et la New Orleans Suite, justement, le premier morceau, Blues for New Orleans, est interprété par l'orchestre de Duke Ellington et White Bill Davis. Donc c'était la porte d'entrée pour accueillir l'orgue. Et à partir de là, j'ai adapté le répertoire de telle façon à ce que, sur chaque morceau transcrit, Rhoda puisse jouer, y compris sur les morceaux où il n'y avait pas d'orgue originellement. Et j'ai également adapté des grands standards d'Ellington pour que Rhoda puisse également jouer avec nous.
Alors justement, vous avez parlé à plusieurs reprises des suites d'Ellington, les suites exotiques, la suite d'Extrême-Orient, Faris Suite, les suites sur les musiques sacrées. En général, me semble-t-il, vous me corrigerez peut-être, il me semble que ce sont des compositions ellingtoniennes relativement tardives. C'est plutôt dans les années 50-60 qui s'est consacré à ces suites. Est-ce que vous avez fait appel aussi à toutes les périodes d'Ellington, ou il y en a certaines qui sont pour vous des périodes d'élection? Est-ce que les périodes qu'on a, la jungle music, si vous voulez, de la fin des années 20, du début des années 30, le grand orchestre, l'espèce de période d'or du début des années 40, est-ce que ce sont aussi des sons auxquels vous allez vous frotter, ou un peu moins?
La grande difficulté, c'est évidemment le compromis stylistique. Pour autant, les suites, les premières sont très anciennes. Black and Tan Fantasy, c'est déjà un film et c'est déjà 1927.
Hein. Oui, mais il y a une saveur musicale qui ne ressemble pas, par exemple, à la suite des musiques sacrées. Voilà. C'est beaucoup plus proche de ce qu'il faisait avec des petits morceaux. C'est plus long, simplement. Mais c'est dans l'esthétique des années 28-30.
Oui, c'est vrai. Disons que la vraie clé, c'est la manière de jouer. Comment on va interpréter? Est-ce qu'on prend le son d'Ellington, la période Blanton des années 40? Est-ce qu'on se met sur la période des années 60, la période très prolixe ensuite, 60 et 70? En fait, on essaye de trouver un dénominateur de jeu commun. On est très inspiré dans le phrasé et l'articulation des années 40. Moi, je suis assez exigeant sur le son, sur l'articulation de l'orchestre. C'est l'essentiel de notre travail. Mais quand on va jouer, par exemple, In a Mellotone de 1941, et que l'instant d'après, on va jouer au Klupaka de la Latin American Suite, on va pas faire vraiment un grand écart. On va chercher, et c'est notre travail d'interprète, le meilleur dénominateur commun à toutes ces époques. Évidemment, c'est exactement comme un chef d'orchestre qui voudrait entreprendre de revisiter le répertoire de Mozart ou de Mahler. On est en train de parler d'une musique de répertoire, là. Ellington en tant que musique de répertoire.
Bon, alors on va essayer d'écouter Rhoda Scott jouant du Ellington, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite se pencher vers les morceaux de Rhoda Scott qu'elle a composés elle-même, mais on va essayer d'écouter ce qu'elle donne avec son orchestre dans l'un des disques les plus récents sur un morceau d'Ellington, l'un des plus connus, celui que Laurent Mignard vous venez de citer, c'est-à-dire In a Mellow Tone. Un morceau quand même très illustratif du côté à la fois répétitif d'Ellington et immanquablement entraînant. C'est vrai que Ellington aimait bien danser. Quand on écoute ça, même si on n'aime pas danser, on a envie quand même d'y aller. Cet extrait du dernier disque que vous avez fait paraître, Rhoda Scott, c'est un double album avec à peu près la même équipe sur les deux disques, à la différence du saxophoniste, puisque sur l'un des disques, c'est Ricky Ford, et sur l'autre, c'est Houston Person qu'on vient d'entendre ici et qui a une belle sonorité bien à l'ancienne. Il sait faire beaucoup de choses, Houston Person. Il a plusieurs sonorités à son arc. Hein.
Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est très intéressant d'entendre les deux saxophonistes à proximité d'un CD et la différence de leur sonorité surtout, c'est frappant.
On vous entend d'ailleurs de façon un petit peu différente avec l'un et avec l'autre. Un petit peu.
Mais c'est normal.
Même, oui. Mais vous restez vous-même et puis vous restez avec votre instrument. Votre instrument, c'est quand même l'un des instruments rois du gospel, de la musique noire américaine. C'est ce fameux orgue à mon. Vous y êtes resté fidèle toute votre vie. Quel a été votre premier contact avec l'orgue à mon? Comment vous avez adopté cet instrument?
J'ai rencontré l'orgue à mon à l'âge de 7 ans. Mon père était pasteur dans des églises noires américaines sur la côte est. Et à 7 ans, j'ai suivi mon père, bien sûr, dans une église qui venait d'acheter un orgue à mon. Et comme nous habitions le presbytère, j'avais le droit d'aller dans l'église tous les jours et je pouvais jouer... Pour voir qu'est-ce que c'était cet instrument. Jusque-là, je pianotais un petit peu parce que c'est tout ce qu'il y avait. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais joué du piano. Donc, vous
avez trouvé votre voix.
J'ai trouvé ma voix.
Vous avez dit ça, c'est pour moi.
Je pouvais tout faire. J'ai pas encore fini de comprendre mes rapports avec l'orgue parce qu'il y a tellement de possibilités et il y a tellement de révélations qui viennent tout le temps que je pense que j'en ai encore pour le reste de ma vie, j'espère.
C'est vrai que souvent on a l'occasion de vous entendre en solo parce que l'orgue est un instrument qui s'y prête, ne serait-ce que par exemple, parce que les organistes, même dans leur orchestre en général, ne prennent pas de bassiste. Votre bassiste, c'est votre main gauche ou votre pédalier?
C'est mon pied gauche.
C'est votre pied gauche.
Oui, et c'est un exercice intéressant pour moi de jouer, par exemple, avec le grand orchestre de Laurent Mignard, où là, il y a un bassiste, un excellent bassiste, Bruno Rousselet. Et parfois, je pense que c'est moi qui joue le basse. Et il faut que je me rappelle que c'est Bruno, mais souvent, il joue exactement ce que j'aimerais jouer.
Vous êtes à l'unisson.
Oui.
Le fait d'avoir un bassiste, de temps en temps, ça vous donne une liberté pour partir plus dans l'aigu, pour vous servir différemment ou c'est pareil?
Non, ce n'est pas pareil. Ça m'enlève un certain équilibre parce que avec trois ou quatre différentes dimensions. On a le pied qui marche, on a la main gauche donc qui marche, la main droite et l'autre pied qui fait marcher le pédale d'expression qui est très important pour un organisme. Et quand tout d'un coup j'ai le pied condamné, entre guillemets, il me manque un certain appui. Donc ce que je fais...
Donc vous boitez un peu.
Oui, je suis bancal. Mais ce que je fais, c'est que je joue avec Bruno quand même, mais on l'entend pas.
Alors, vous m'avez dit que dans quelques jours, vous allez partir au Kazakhstan pour donner un concert dans une grande salle et que vous allez jouer des grandes orgues. Est-ce que là aussi, il y a une entreprise de rééquilibrage à faire? Est-ce qu'on passe facilement de l'orgue à mon aux grandes orgues? Qu'est-ce qui change dans votre rapport à la musique?
Une chose qui change, c'est qu'on joue les basses avec les deux pieds au lieu d'un pied, parce que le pédale d'expression n'existe pas comme sur un orgue à mon. Et l'attaque est très, très différente. C'est beaucoup moins répondant, si on veut, qu'un...
Le temps de réponse est plus long, quoi.
Oui,
ouais.
Oui,
la dynamique n'est pas aussi vive.
Oui, même les orgues assez modernes sont toujours assez raides pour moi. Mais c'est quand même un orgue. Et mon père me disait dans le temps, quand j'avais 14-15 ans, et on changeait d'église, et il y avait un orgue que je connaissais pas, et il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? T'arrivais à rien en sortir? J'ai dit, mais papa, c'était pas le même orgue. Il dit, me raconte pas ça, si tu sais jouer de l'orgue, tu sais jouer tous les orgues. Et j'ai pris ça comme principe. J'ai suivi des cours d'orgue classique, mais je pense, si c'est un orgue, je dois pouvoir quand même le jouer.
Vous avez suivi des cours, dites-vous. Je sais que assez rapidement, donc, vous êtes venu à Paris et que vous avez travaillé avec Nadia Boulanger. Comme beaucoup de musiciens de jazz sont venus à Paris dans les années 50, vous avez travaillé avec Nadia Boulanger.
Mais ce n'était pas pour l'orgue.
Oui, justement. Qu'est-ce que vous avez été travailler chez celle qu'on appelait Mademoiselle Boulanger?
Je suis allée étudier avec elle plutôt le contrepoint et l'harmonie parce que j'avais fait une spécialisation en théorie au conservatoire qui n'avait pas en ce moment-là un département pour l'orgue.
Quand vous parlez du conservatoire, c'était un conservatoire aux États-Unis?
Oui, c'était au Manhattan School of Music à New York. Et comme ils n'avaient pas d'orgue, j'ai fait théorie, contrepoint, et j'ai commencé à enseigner dans le même conservatoire après. Et il me semblait que je devrais dorer mon blason un petit peu. Je ne peux pas dire redorer, mais j'ai eu l'opportunité de venir étudier avec Nadia Boulanger, et c'est grâce à cela que j'ai découvert la France.
Et je sais qu'il y a beaucoup de musiciens de jazz qui sont donc venus étudier avec elle. Est-ce que vous étiez consciente de ça quand vous étiez chez elle? Est-ce qu'il y avait soit un petit cercle d'Américains, de gens qui aimaient le jazz parmi ses élèves? Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des précédents, qu'il y aurait encore d'autres gens qui viendraient étudier avec elle et qui venaient de cette musique afro-américaine?
Non, pas du tout. Je suis vraiment venue par une approche classique, par mon professeur de théorie, le chef du département de théorie, qui avait, elle aussi, étudié avec Nadia Boulanger et a parlé tout le temps de Mlle Boulanger. Et je lui ai demandé un jour, est-ce que vous croyez que moi, je pourrais étudier avec elle? Parce que elle s'appelait Dr. Lenon et elle vouait une adoration à Nadia Boulanger. Elle pensait que c'était possible. Elle m'a aidé à poser ma candidature et j'ai pu venir en France la rencontrer, étudier avec.
Alors, Laurent Mignard vous accompagne à la tête de son grand orchestre, mais il fait plus d'une chose dans la vie, et en particulier, il vient de publier un disque à la tête de son quartet, qui s'appelle Pocket Quartet, puisque lui, d'ailleurs, joue de la pocket trompette. Il y a de temps en temps sur ce disque, dont je ne vous saurais trop recommander l'achat, il est excellent, quelques morceaux qui permettent de l'entendre en solo. Il y en a un en particulier qui s'appelle Horn Talk. Alors, je ne sais pas si c'est Horn Talk que Laurent Mignard va interpréter, mais il a accepté de prendre sa petite trompette de poche et de jouer pour nous quelques minutes en solo. Le voici. Thank you. Laurent Minière avec sa trompette qui parle, qui murmure, qui se confie, qui se plaint et qui nous ramène quand même tout droit à Ellington. Non qu'Ellington fut trompettiste, mais quand même, il y a un certain nombre de trompettistes qui ont inauguré ces trompettes qui parlaient. Alors, est-ce que, en tant qu'admirateur d'Ellington et trompettiste, vous avez aussi été influencé par certains trompettistes ellingtoniens? On ne peut que penser à Bob Marley, quand on entend justement cette articulation et cette imitation de la voix, parfois.
Ils sont tous importants, ils ont tous apporté quelque chose. Je pensais à Clark Terry, tout à l'heure, en jouant, évidemment, dans la Such We Thunder, la Shakespearean Suite. Bien sûr, Cootie Williams, c'est une voix. Comment dire, cette façon de traiter chaque soliste comme une entité absolue, pleine, entière, dans le respect du musicien, mais au service d'un collectif qui les dépasse, garanti par Ellington lui-même, c'est rare. Et ce, pendant peut-être 65 ans de carrière.
Oui,
sans aucun bas.
Il a eu une bonne lignée, quand même.
Non, mais sinon, oui. Tous les trompettistes comptent.
Alors, dans la musique classique, et même dans une certaine tradition, je dirais, populaire de la musique classique, souvent, on entend des duos trompette et orgue. Des duos un peu académiques, un peu guindés, c'est un petit peu toujours les mêmes. Est-ce que vous, Laurent Mignard et Rhoda Scott, vous avez envisagé de temps en temps, même au sein d'un concert où il y a le grand orchestre de Laurent et votre orgue, de faire un petit domino comme ça tous les deux? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que trompette orgue avec un arrière-fond jazzy, ça pourrait donner quelque chose de bien?
Je pense que ça pourrait donner quelque chose de très bien. Et pourquoi pas? Nous ne sommes qu'au début de
De votre association?
Oui.
nous sommes en train de laisser monter le désir.
Bon, c'est bien.
Le désir a été provoqué par cette première rencontre que Méridien nous donne à vivre. Et on va laisser cette première rencontre se dérouler. On est en train d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à s'estimer au-delà du fait que, bien entendu, je connais la musique de Rhoda, mais j'ai jamais rencontré. Donc ça y est, ça arrive. Et puis à partir de là, je pense que la vie nous accompagnera, si Dieu veut.
Rhoda Scott, ça vous est arrivé souvent d'être associée à un grand orchestre, vous?
J'ai eu une rencontre magnifique en 1976 avec le Thad Jones-Mellois Jazz Orchestra. D'où est sorti un disque d'ailleurs. Mon premier grand orchestre, mais je n'ai pas joué dedans, contrairement à ce qu'on croit, c'était Count Basie quand même, et j'ai joué sur un même programme avec lui pendant les entr'actes. C'était mon trio qui jouait.
C'était pas mal déjà.
Et Count Basie, elle nous a écoutés et il m'a proposé de venir jouer dans son club. Il avait un club de jazz à Harlem et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de venir jouer pour moi? Bien sûr. Et pendant 3-4 ans, je venais régulièrement jouer à Count Basie's Lounge à Harlem. Donc, il venait de temps en temps, en fin de soirée, s'asseoir dans un coin ou quelque chose. Donc, après Count Basie...
Il faisait pas le bœuf avec vous?
Non. Non.
Il jouait pas?
Peut-être lui, il voulait un piano et quand j'étais là, il y avait un orgue. Non, je pense qu'il venait se décompresser après un concert ou vraiment cool dans un coin. Alors, la rencontre avec Jones-Mellois, c'était un petit peu en continuation de cela. Et depuis que je suis enfante, j'ai collaboré avec quelques grands orchestres. J'ai fait un concert avec Claude Bowling. Avec le Govix Big Band dirigé par Michel Kuss, avec le Phoenix Big Band dirigé par Jean-Luc de Giovanni.
Et puis, vous composez aussi de temps en temps, d'ailleurs, sur ce dernier disque qui s'appelle simplement Rhoda Scott Very Sexy, on entend l'une de vos compositions qui s'intitule Nova, toujours avec Houston Person au saxophone ténor. Demain soir, donc, on vous entendra pas très tôt, hein, ça commence à 22h30, comme les clubs à l'ancienne, au club Lionel Hampton, qui est donc à l'hôtel Méridien, Porte Maillot à Paris, Rhoda Scott et Laurent Mignard, pendant que vous fourbissez d'autres armes, puisque vous venez donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'enregistrer un disque en quartet, qui s'intitule Alter Tropicus, avec ce groupe qui s'appelle Pocket Quartet, qu'on va entendre, je crois, le 9 mai, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Où cela ?
Au Duc des Lombards.
Au Duc des Lombards. Alors, un mot sur l'histoire de ce quartet. Est-ce qu'il est vieux ?
Le quartet a à peu près 2 ans. Il a été récompensé au concours de jazz de la Défense, récemment Révélation Jazz à Juin. Et il sort son 2e album. Sylvain Rifflet m'accompagne comme alter ego des cuivres. Et puis, il y a
Sylvain Rifflet, qui est donc saxophoniste. Qu'on entend parfois avec R.L. Besson, qui est une autre trompettiste à peu près de votre génération.
Absolument, tout ça, c'est la famille, c'est le bon réseau. Et puis, Éric Jacquot, Sylvain Clavier, la rythmique, Jacquot à la basse, Clavier à la batterie. C'est un orchestre qui a développé une musique qui nous a été inspirée par les tristes tropiques de Lévi-Strauss. Une autre façon de...
Qu'est-ce que vous entendez par « inspiré par les tristes tropiques » ? En quoi les tristes tropiques vous ont-ils inspiré ?
On pense que pour jouer de la musique, on peut aussi se poser sur les chemins de l'altérité. Porter son regard sur l'autre, c'est s'inspirer de son identité, la transformer dans un caractère musical, le restituer dans un langage à soi, dans la filiation des travaux de Linton, de Claude Debussy, à l'opposé des démarches de musique du monde qui vont capter, aspirer n'importe quel instrument ethnique ou ethnologique. On va préférer l'ethnocentrisme à l'ethnologie, voilà, par exemple.
Et c'est vous là qui vous laissez aspirer par d'autres choses ?
Oui, c'est ça, je pense que seul on n'est rien. Je pense qu'on est plus nombreux quand on multiplie les qualités de regard. Et la tribu Hadzabé de l'Est de l'Afrique, les Yanomani du centre de l'Amazonie, la ville de Bukhara m'intéresse parce que ce sont des gens sur lesquels le regard ne se porte plus, parce qu'ils sont pas importants, parce qu'ils n'ont qu'une valeur marchande. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'être un militant altermondialiste pour avoir une conscience citoyenne, y compris quand on est musicien. Donc j'ai eu envie de mettre du sens également dans la musique. C'est ça le propos d'Alter Tropicus. Mm-hmm.